Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Je dis souvent que, je le dis parce que c'est une réalité, que le Seigneur nous a créés libres. Et bien que Dieu soit Dieu, bien que nous ayons accepté de faire de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, ce matin, c'est notre liberté que nous nous sommes réunis. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde chrétien énormément de débats qui se font autour des Écritures, autour de la parole de Dieu, là où chacun tire la couverture de son côté pour essayer de sortir vainqueur d'un débat ou bien pour défendre ses propres intérêts. Chacun va chercher à interpréter la parole comme bon lui semble. Alors certains vont dire que la Bible, il faut la revoir parce que ça a été écrit dans un contexte particulier de l'époque. Autrement dit, il faut l'adapter aujourd'hui à notre manière de vivre. Mais si Dieu dit qu'il s'appelle « Je suis », c'est-à-dire il n'a ni commencement ni fin, il n'a ni passé ni futur, lui, il est toujours au présent. Et c'est sa parole qui nous donne. Comment pouvons-nous considérer que sa parole est passée et qu'il faut l'adapter aujourd'hui? Puisque lui, lorsqu'il parle, il parle aujourd'hui. Donc la parole de Dieu est actuelle. Alors ce matin, je nous interpelle afin d'être des hommes faits. L'apôtre Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». L'apôtre Paul soulevait des points dans l'église de Corinthe que la Bible n'avait pas définis de façon claire. Alors il les a exhortés à être des hommes faits, c'est-à-dire des hommes matures qui ont l'Esprit de Dieu pour comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu. Autrement dit, il ne voulait pas aller dans des longs discours, il ne voulait pas chercher à débattre ou à prouver qu'il avait raison dans ce que la Bible n'avait pas défini de façon claire. Mais ceux qui sont spirituels et qui comprennent que même si dans la Bible clairement, ce n'est pas écrit qu'il ne faut pas mettre de mini-jupe, celle qui est spirituelle sait que la mini-jupe ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ce n'est pas écrit clairement, ce n'est pas écrit comme ça. Et il y a beaucoup d'autres choses dans la vie de tous les jours que la Bible n'a pas définies de façon claire. Alors chacun cherche à pratiquer et à faire comme sa chair le conduit à le faire et non pas comme l'Esprit de Dieu le voudrait. Le thème que nous allons aborder ce matin va dans ce sens-là. Je n'aurai pas tous les versets à vous donner pour justifier ce que je dis. Mais je dis tout simplement que ce matin, j'aimerais m'adresser à des hommes spirituels qui comprendront quel est l'Esprit de Dieu et quelle est la volonté de Dieu à travers ce que nous allons partager. Alléluia. Il y a dans la vie des choses qui sont importantes et il y en a qui sont moins importantes. Lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, le Seigneur va leur donner toutes sortes de recommandations que nous retrouvons dans le livre de Lévitique, notamment la façon dont vivaient certains peuples. Et il va leur dire, moi je vous envoie là-bas, mais vous ne vivrez pas comme eux. Et il va leur donner toute une liste de choses à ne pas faire. Ne pas manger du porc, beaucoup d'autres choses comme ça, liées au contexte de l'époque, afin que le peuple d'Israël soit vraiment à part. Que dans leur manière de vivre, on distingue clairement qu'ils ne vivent pas comme les autres. Alors, il y a des recommandations que Dieu va donner, suivies de certaines sanctions. Celui qui mangera un aliment qui est impur, il devra s'acquitter de telle dette, il devra présenter telle chose au sacrificateur. Donc, en fonction de ce que Dieu va juger plus ou moins grave, il y aura quelque chose à payer. Mais celui qui osera tuer son prochain sera aussi condamné de mort. Donc, en fonction de tout ce que le Seigneur va établir, il va aussi mettre, je dirais, une unité de mesure qui permet de mesurer et de juger la gravité du péché, de la faute qui a été commise. Donc, dans ce qui n'était pas très grave, qui nécessitait peut-être le sacrifice d'une colombe, ce sont des choses qu'on peut dire que Dieu permettait, sans vraiment que ça soit dans sa volonté parfaite, ce sont des choses que Dieu a tolérées. Comme les gens sont venus poser la question à Jésus pour dire, mais pourquoi Moïse avait-il permis le divorce? Et le Seigneur dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Puisque Dieu a créé l'homme et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il dit toutefois, si Moïse l'a permis, c'était à cause de la dureté de votre cœur. Ce n'était pas que Dieu voulait ça, mais puisque votre cœur était tellement mauvais, et à cette époque-là, il n'avait pas le Saint-Esprit, Moïse l'a permis. Mais le fait que Moïse le permette par le biais de Dieu ne veut pas dire que c'était dans la volonté parfaite de Dieu. Et aujourd'hui encore, il y a des choses que le Seigneur, quelquefois, laisse faire malgré lui, mais qui ne représentent pas la volonté parfaite de Dieu. Mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler ce matin. Ce que nous allons parler ce matin, c'est ce qui a de la valeur au Seigneur, et là, par contre, qui ne permet aucun compromis, qui ne laissera pas passer. Il y a des choses pour lesquelles on ne pourra pas être pardonné, on ne pourra pas être justifié. La Bible nous dit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a plus rien à faire pour lui. Donc ça nous montre que malgré que nos péchés soient pardonnés à cause du sacrifice de Jésus, il y a quand même une catégorie de péchés que Dieu ne laissera pas passer. Nous lisons Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Voilà l'une des choses pour laquelle le Seigneur demeure dans sa colère et rien ne pourra calmer cette colère-là. Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. La colère de Dieu, Dieu est en colère. Il est en colère parce qu'il dit que la vérité en ce qui concerne son identité, en ce qui concerne ce qu'il est, Dieu dit que je l'ai révélé aux hommes de façon claire. J'ai fait tout ce qu'il fallait afin que par l'observation de ce que j'ai créé, les hommes puissent s'humilier et considérer que rien ne vient du hasard, mais que je suis le créateur de toutes choses. Et Dieu dit qu'il est en colère parce que les hommes refusent de se soumettre à cette vérité, mais ils préfèrent inventer des théories qui font que Dieu n'existe pas et que tout a été créé par le hasard. Et Dieu dit, au lieu de m'adorer moi, au lieu de me rendre grâce pour ce que j'ai fait, mais ils ont changé mon image en animal. On se souvient lorsque Israël a été délivré, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse s'est absenté? Ils se sont fait un veau d'or. Et ils ont dit, Israël, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Ils ont voulu se représenter un Dieu à leur propre image, à leur propre convenance. Et Dieu a été irrité, Dieu a été en colère, parce qu'il venait de faire éclater sa gloire en Égypte, et malgré tous les prodiges et les exploits que le Seigneur venait d'accomplir, Israël va se faire un veau d'or et dit, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Et Dieu dit que je suis en colère, parce que ma gloire a éclaté. Je leur ai fait manger la manne que même leur père ne connaissait pas. Je me suis révélé à eux de façon particulière et malgré ça, ils disent que leur Dieu est un veau d'or. Et Dieu dit qu'il est en colère parce que les hommes ont changé l'identité de Dieu. Dieu qui est Dieu, qui nous a créés, nous voulons créer Dieu avec nos propres mains, avec nos propres convictions, avec nos propres pensées, avec notre propre idéologie et dire que mon Dieu, moi, ressemble à un chat. Il y a d'autres qui adorent des souris, d'autres adorent des éléphants, d'autres adorent des monuments, d'autres adorent des hommes. Dieu qui a créé le ciel et la terre se fait adorer à travers un homme, à travers un objet inanimé. Et Dieu dit qu'il est en colère parce que la révélation qu'il a donnée aux hommes le concernant, les hommes l'ont changé. Ils ont voulu un Dieu qu'ils ont eux-mêmes créé avec leurs propres pensées, avec leurs mêmes idées. Mais lorsque l'on crée quelque chose, lorsque nous sommes à l'origine de quelque chose, par conséquent, nous en sommes aussi le chef. Il y a aujourd'hui des objets qui portent les noms de ceux qui les ont inventés. Même des maladies qui ont été découvertes portent le nom de ceux qui l'ont découvert. Donc ça montre que c'est eux qui sont à l'origine d'une découverte ou à l'origine d'une création. Alors comment aujourd'hui, par notre propre pensée, se faire l'idée de ce que devrait être notre Dieu? Et Dieu dit qu'il est en colère parce que les hommes ont changé son identité. Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui est invisible, on en a fait une représentation visible. Et Dieu dit qu'il est en colère. Ça a amené la colère du Seigneur parce que tel qu'il s'est présenté, tel qu'il a voulu se faire connaître aux hommes, les hommes n'ont pas voulu le connaître ainsi. Mais ils ont voulu le connaître selon leur propre idée. Et Dieu est en colère à cause de ça, parce que son identité a été changée. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22, à partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Celui qui atteste ces choses, le Seigneur lui-même, il met en garde tous ceux qui auront la démangeaison et la tentation de ajouter ou de retrancher quelque chose à tout ce qu'il a dit. La Bible nous dit dans Jean 1 que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et cette parole de Dieu qui était avec Dieu, et la Bible nous dit qu'il était Dieu lui-même, s'est faite chair et est venue sous l'apparence d'un homme en Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu ne représente pas simplement la façon dont Dieu s'exprime, mais elle représente Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Et le Seigneur dit que si nous cherchons à modifier cette parole-là, c'est comme si nous sommes en train de modifier toute l'histoire finalement de Dieu, toute l'histoire que Dieu a voulu pour les hommes. En modifiant les Écritures, nous sommes en train de modifier le salut de Jésus. Nous sommes en train de modifier la personne même de Jésus. Or, toucher à ce qu'il y a de précieux pour le Seigneur dit clairement que c'est une des raisons pour laquelle j'effacerai votre nom du livre de vie. Donc nous voyons la sanction que Dieu donne si sa parole est touchée. Je disais tout à l'heure que plus la sanction est grande, plus ça nous montre la gravité du problème. On ne va pas voir quelqu'un aujourd'hui faire 15 ans de prison parce qu'il a volé une tablette de chocolat à Leclerc. Loin de là. On va à la limite lui demander de payer la tablette, il va être fiché quelque part et puis ça va s'arrêter là. Mais lorsqu'on apprend que quelqu'un a fait 15 ans, 20 ans de prison, on peut comprendre que là, peut-être que quelqu'un est mort dans cette affaire. Peut-être que là, il y a eu une violence exagérée. Donc on peut comprendre en fonction de la sentence quelle est la gravité du problème. Et Dieu dit que celui qui touche à sa parole, qui va tenter d'ajouter quelque chose ou de retrancher quelque chose, Dieu va aussi retrancher sa part de la vie éternelle. Donc nous voyons comment la colère de Dieu est grande lorsqu'on touche à ce que lui, il a donné de la valeur. La parole de Dieu, c'est ce qui régit notre mode de vie. Si la parole de Dieu est modifiée, comment allons-nous savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas? Si la parole de Dieu est modifiée, finalement, où se trouve le salut? Donc nous voyons que toucher la parole de Dieu, mais ça remet en question toute l'humanité. Ça voudrait dire que forcément tout ce que nous avons cru jusqu'aujourd'hui est aussi faux. Ça voudrait dire que nous n'avons plus aucune certitude sur la question du ciel et de l'enfer. Si la parole de Dieu est modifiée, finalement, où se trouve la vérité? Or, c'est cette vérité-là que Dieu nous a donnée pour savoir ce qu'il attend de nous, pour que nous sachions ce qu'il attend de nous. C'est cette parole que Dieu nous a donnée pour savoir comment nous devons marcher, que nous sachions faire la différence entre ce qui est faux et entre ce qui est vrai. Nous voyons aujourd'hui dans le monde chrétien toutes sortes d'abominations. Et on se demande comment il se fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui suivent des gens qui sont dans la fausseté, des gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la magie ouvertement. Quand vous entendez un homme qui se dit serviteur de Dieu, mais qui prêche librement, qui sort de son corps, et que là vous voyez plus de 5000 personnes acclamer et vouloir l'imiter, on peut se poser des questions, mais est-ce qu'on lit la même parole? Est-ce qu'on a la même Bible? Mais les gens ont tout simplement changé. Ils ont adapté la Bible en fonction de leurs propres besoins. Le besoin de se sentir puissant, de se sentir fort, leur donne le droit maintenant de pouvoir sortir de son corps, faire des voyages, des voyages astraux pour aller ça et là faire du mal aux gens et en quelque sorte défier le monde spirituel. Et des pasteurs prêchent ça librement et des gens disent, ouais, il a la puissance, ah, il est très fort, rempli d'esprit de divination et les gens suivent. Mais à quoi nous sert la parole dans ce cas-là? Lorsque l'apôtre Paul s'est rendu à Thessalonique afin de prêcher, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus humbles. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur prêchait était ça ou pas. Si c'était ça ou c'était pas ça. Ils avaient compris la valeur de leur salut et ils avaient compris la valeur de la parole de Dieu qui allait leur permettre de demeurer dans la voie du Seigneur. Que Paul ressuscite le mort ou pas. Que Paul guérit les malades ou pas. Que Paul fait des exploits ou pas. Qu'il ait des révélations, je ne sais pas quelles révélations, ou qu'il n'en ait pas. Ce n'était pas leur problème. Leur problème, c'était de savoir est-ce que cet homme-là nous prêche la vérité ou pas. C'est pourquoi ils s'attardaient dans les Écritures afin d'examiner. Mais si les Écritures étaient modifiées maintenant, si on y ajoutait ou on retranchait quelque chose, où est notre repère? Quel sera désormais notre fondement? Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Certains le prêchent, mais certains le vivent aussi, tout simplement. Dans notre manière de vivre la rébellion, en faisant ce que nous voulons faire, et quelquefois ce qui est le plus malheureux, c'est que les chrétiens justifient ça en voulant associer Dieu à leurs bêtises. Ils sont dans certaines bêtises et ils disent « Oui, mais c'est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, laisse-moi libre. » Donc, on fait de Dieu notre avocat dans le péché dans lequel on est. Ça, c'est une façon de modifier la Bible, d'y ajouter quelque chose. Et Dieu dit que la conséquence, c'est que ton nom sera retranché du livre de vie. On ne touche pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu a de la valeur parce qu'elle représente Dieu lui-même. Et c'est par sa parole que le Seigneur a trouvé bon de sauver les humains. Si nous enlevons la parole, c'est une manière de dire que le salut n'est plus accessible. Or, la raison principale pour laquelle Jésus-Christ est venu payer de son sang à la croix, c'est pour que nous ayons le salut et la vie éternelle. Et le chemin du salut ne peut pas se montrer autrement que par les Écritures. C'est pourquoi nous devons veiller, être des garants de la parole de Dieu. Là où nous sommes, là où nous entendons la parole de Dieu, nous devons veiller qu'elle soit prêchée, qu'elle soit donnée selon ce qui est écrit. Si vous entendez quelque chose qui ne peut pas être justifié bibliquement et qui vous emmène dans une voie dans laquelle le Seigneur n'est pas, bien-aimés, interrogeons-nous et prenons nos dispositions. Parce que notre vie a une grande valeur aux yeux de Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir ce Dieu qui est si grand. Ni l'or ni l'argent ne peuvent acheter le sang de l'agneau qui a été versé pour nous. Mais ce sang a été versé pour toi. Et comme j'aime dire, ça veut dire par là que même si la valeur de Jésus-Christ est tellement élevée que rien ne peut l'acheter, le Seigneur a trouvé bon de sacrifier son Fils pour toi. Ça veut dire que la valeur à laquelle tu as aujourd'hui correspond au prix du sang que l'agneau a versé pour toi. Et c'est par cette parole-là que nous pouvons demeurer dans le salut du Seigneur. C'est par cette parole que nous pouvons faire la volonté de Dieu. Et le troisième point sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, c'est sur le corps. Le corps de l'homme a une importance très grande aux yeux de Dieu. Nous lisons d'abord Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Dans le livre de la Genèse, lorsque le Seigneur va créer Adam et Ève, la Bible nous dit qu'il va créer l'homme à son image, il va créer l'homme à sa ressemblance. Après avoir créé la végétation, après avoir créé le monde, Dieu va créer l'homme et le placer dans le jardin afin qu'il cultive le jardin. Parmi toutes les créatures que Dieu va créer, c'est pour l'homme que Dieu va dire, je l'ai fait à mon image, je l'ai fait à ma ressemblance. Et Dieu va donner à l'homme la possibilité de dominer sur tout ce qui bouge sur la terre. la végétation comme sur les animaux. Et Dieu va même donner l'autorité à l'homme de donner le nom aux animaux pour montrer la supériorité de l'homme sur toute la création parce que c'est l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme est un être particulier parmi toute la création que Dieu a faite. L'homme est à part. L'homme est au-dessus. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. Donc lorsque le Seigneur parle de son image, lorsque le Seigneur parle de sa ressemblance, il veut parler par là de la capacité qu'il a donnée à l'homme de réfléchir, d'être capable de créer, d'être capable d'inventer. Donc toutes les aptitudes que l'homme a, c'est ça qui fait la ressemblance avec Dieu. Puisque Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit, la ressemblance dont il est question n'est pas la ressemblance que nous pouvons parler entre humains, que tel ressemble à son père, tel ressemble à sa mère. Ce n'est pas ça. C'est une ressemblance en esprit. Dieu a fait de nous ses enfants, il a fait de nous sa créature privilégiée. Et par conséquent, l'homme doit être dissocié de tout le reste de l'humanité. Dans Matthieu chapitre 21, au verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Le temple de Dieu était la première habitation, si on peut dire, l'habitation de Dieu parmi les humains. Avant que le temple soit construit en briques, il y avait le tabernacle qui faisait office de temple. Et lorsque le Seigneur parle à Moïse, il va lui donner toutes les dimensions à respecter en ce qui concerne le tabernacle, en ce qui va concerner le temple. Donc il va dire à Moïse, tu fais selon le modèle que je te montre. Donc ne cherche pas à inventer. Ne cherche pas à rajouter, à retrancher ou à imaginer. Tu fais selon le modèle que je te donne. Et dans ce temple-là, qui va devenir le tabernacle, qui va devenir le temple par la suite, il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et à l'époque du tabernacle, lorsque le peuple d'Israël se déplaçait d'un endroit à l'autre, il y avait des gens, les Lévites, qui étaient chargés de transporter l'arche de l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance se déplaçait avec le peuple d'Israël. Et au moment maintenant où le Seigneur va permettre que le temple se construise, l'arche de l'Alliance demeure dans le temple, mais l'objectif de ce temple, de l'arche, était de représenter la présence de Dieu parmi le peuple, de façon à ce que Dieu qui est invisible, par cette marque visible que représentait le peuple, ils aient constamment le regard sur Dieu, ils aient constamment le regard, la pensée que le Seigneur est au milieu d'eux. Ça devait être une maison de prière, une maison dans laquelle on offrait des sacrifices, on venait adorer Dieu. Et voilà que le Seigneur va entrer dans ce temple-là, qui était consacré à la présence de Dieu, consacré à l'adoration. Un temple, le temple de la présence de Dieu, il va trouver que les gens ont étalé leur commerce. Ils en ont fait un marché. Là où les gens ne viennent plus pour adorer Dieu, mais ils viennent tout simplement pour acheter et pour vendre. Là où les gens ne cherchent plus l'intérêt de Dieu, mais ils cherchent leur propre intérêt, se faire de l'argent en faisant du commerce. Et le Seigneur a été en colère de voir ça. De voir que le temple qui représentait la présence de Dieu a été bafoué. L'utilité ou la raison pour laquelle le Seigneur avait permis qu'on construise ce temple-là n'était plus respectée. Et le Seigneur s'est mis en colère. Il a renversé toutes les tables. Il a fouetté tous ceux qui étaient là. Il a dit, la maison de mon Père doit être une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Par la suite, le Seigneur va prédire la destruction du temple. Nous arrivons dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Dans l'Ancien Testament, jusqu'à la venue du Seigneur, il y avait le temple physique dans lequel résidait l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Joël, il avait été prophétisé que viendra un temps où le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Et dans Actes 1, cette promesse va s'accomplir. Et le Seigneur va permettre désormais, selon Éphésiens 1, 13, que tous ceux qui vont croire à l'Évangile vont être scellés du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui vont se consacrer à Dieu, reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, vont devenir une habitation pour Dieu. Autrement dit, le temple qui existait autrefois physiquement, mais qui a été détruit par la suite, devient maintenant notre corps dans lequel le Seigneur veut résider par son esprit. Et la même colère que le Seigneur avait eue lorsqu'il a vu que le temple dans lequel résidait la présence de Dieu a été changé en caverne de voleurs, c'est cette même colère qui anime le Seigneur lorsqu'il voit que nous qui sommes devenus les temples du Saint-Esprit, nous changeons maintenant ce corps selon l'utilité que Dieu veut. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais pourquoi faire de votre corps un membre de péché? Votre corps appartient désormais à Dieu et vous êtes les temples du Saint-Esprit. Le temple en briques a été cassé. Mais désormais, c'est votre corps qui fait office de temple. Et ce qui était représenté par l'arche de l'Alliance, dans le temple, c'est désormais l'Esprit de Dieu qui vit en vous. La présence de Dieu qui est en vous. Et nous avons vu la colère, bien-aimée, que le Seigneur a manifestée lorsqu'il est entré dans le temple et qu'il a vu que le temple n'était pas une maison de prière. Mais c'est cette même colère que le Seigneur a lorsqu'il voit que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, n'est pas utilisé pour le glorifier lui. Que ce temple-là n'est pas une maison de prière, une maison d'adoration. Dieu est en colère vis-à-vis de ça, parce que le corps a une importance pour lui. Il y a rarement des passages dans la Bible où nous voyons Jésus-Christ se mettre en colère. C'est un grand enseignement, bien-aimé, de voir que le Seigneur s'est mis en colère parce qu'il a vu que le temple, la maison de son Père, était bafouée. Mais cette maison-là, désormais, c'est notre corps. Alors, quel est l'état du Seigneur? Quelle est la pensée de Dieu lorsqu'il voit que ce corps-là, dans lequel il est censé habiter, finalement sert à autre chose qu'à glorifier son nom? Sert à autre chose qu'à élever son nom? C'est l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. C'est pour l'être humain que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. La Bible ne nous dit pas que Dieu a tant aimé les animaux, bien-aimés. Dieu a tant aimé les cafards ou les souris. Non, c'est nous que Dieu a tant aimé. C'est pour nous que Jésus-Christ a été sacrifié. Ça montre la valeur que nous avons. Et c'est en nous que le Seigneur a choisi d'habiter. Le Seigneur n'a pas choisi de résider dans les chevaux ou bien dans les ânes. Il a choisi d'habiter dans l'être humain qu'il a créé à son image. Notre corps a de l'importance pour le Seigneur. Or, la réalité d'aujourd'hui, c'est que le corps est devenu un instrument qui fait tout le contraire de ce que le Seigneur attend. C'est par le corps que l'homme s'affirme. C'est par le corps que l'homme existe. C'est par le corps que l'homme fait sa réputation. C'est par le corps que l'homme veut être respecté, veut être adoré, veut être aimé. Nous voyons aujourd'hui dans le monde, il y a des normes qui ont été faites. S'il fallait être tous des top modèles, des mannequins selon le monde bien-aimé, ah, les sœurs, je suis désolé, mais selon le monde, très peu allaient être qualifiés ici. Ça, ce sont les critères du monde qui poussent les gens à avoir des idées perverses pour à tout prix changer et modifier les choses selon la logique de ce monde et non plus selon la logique de Dieu. Et la volonté du diable, selon les projets qu'il a pour les humains, car la Bible nous dit dans Apocalypse 12 qu'il est descendu sur terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps, pourquoi? Mais qu'il a peu de temps pour nous corrompre. Son cas à lui est déjà scellé. Lui, il est déjà jugé. Il sait comment ça finira. Donc le peu de temps qui lui reste, c'est ce peu de temps qu'il veut mettre toute sa puissance, toute son intelligence satanique pour amener un maximum d'humains avec lui. Et il va faire preuve de toutes sortes de ruses pour amener l'homme à défier Dieu. Parce que le plus grand péché, c'est quoi? C'est de défier Dieu. Mais défier Dieu, ce n'est pas simplement dire de sa bouche, Dieu, tu n'existes pas, je suis plus fort que toi. Défier Dieu, on peut le défier par notre manière de vivre, par notre manière de penser. On peut montrer au Seigneur que quelque part, je fais ce que je veux. Il a dit à Adam, Dieu a-t-il réellement dit? Non, Dieu sait que si tu manges de ce fruit-là, tu seras comme lui. Satan a voulu amener Adam à rivaliser avec Dieu. Il a dit, si tu manges, Dieu sait que tu seras comme lui. Il a réussi à semer dans Adam la volonté d'être comme Dieu. Il a fait croire à Adam que dans la façon dont Dieu t'a créé, il te manque quelque chose. Dieu ne t'a pas tout donné. Tu vois ce fruit-là, si tu le manges, ce que Dieu ne voulait pas te donner, ce qui te manquait, tu le retrouveras. Et ainsi, il vient nous souffler à l'oreille par des publicités mensongères. Il vient nous souffler à l'oreille par des, comment dire, des critères qu'on demande en termes d'emploi dans lesquels tu dois te caser et ça va influencer toute ta vie. Il vient nous souffler en nous donnant des soi-disant conseils pour savoir comment vivre le mariage, pour savoir comment être en forme dans son corps. Mais toutes ces choses-là ont pour objectif de nous amener à rivaliser avec Dieu. Bien-aimé, le Seigneur dit une chose. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi divise. Bien-aimé, c'est noir ou blanc. C'est-à-dire, quand le Seigneur s'est exprimé, il n'y a pas eu d'ambiguïté. Si ce n'est pas pour moi, c'est que c'est forcément contre moi. Ça veut dire que forcément, dans tout ce que le monde nous influe, si nous voyons que quelque part, à la longue, ça va nous amener dans une contradiction liée aux Écritures, ça veut dire que dès le commencement, l'inspiration est diabolique. C'est à nous de vivre par l'Esprit pour savoir dans quoi je peux m'engager et dans quoi je ne peux pas m'engager. Alors le diable nous souffle toutes sortes de choses pour nous amener à être de véritables chefs. Et l'un des moyens que le monde nous propose, je vais essayer de donner des exemples terre à terre. Mais comme je l'ai dit dès le commencement, je n'aurai pas des versets à vous donner pour toutes choses. Mais comme je l'ai dit, je parle à des hommes spirituels. Que nous puissions avoir l'humilité de reconnaître et de comprendre ce qui est dit. Le premier point que le monde propose par lequel l'homme devient maître de lui-même, maître de son corps. Nous avons cité l'identité de Dieu, la parole, et là je parle du corps, de l'être humain, tel que Dieu a voulu le créer. Et l'un des moyens qui devient à notre portée maintenant pour être les chefs de notre corps, c'est la chirurgie esthétique. Par la chirurgie esthétique, tu peux corriger les imperfections que Dieu aurait faites. Et beaucoup courent. Ah, mes lèvres sont trop grosses. Ah, quand je souris, ce n'est pas joli. Je lisais dernièrement une star qui dit, ah non, je n'aime pas quand je souris, mon nez ressemble à quoi? Un poivron. Alors, à côté, tu as celui qui va dire, ah, ma bouche est trop petite, il faut que je gonfle un peu. Ah, je n'ai pas assez de hanches, un peu de chirurgie esthétique. Donc, les gens vivent avec un mal-être qui est lié au fait du refus d'accepter les choses telles que Dieu les a faites. On vit en fonction des uns et des autres. On ne vit plus en fonction du regard de Dieu. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Lorsque tu recours à la chirurgie esthétique pour enlever des rides, des injections de Botox, toutes ces choses-là pour cacher des rides, mais tu veux retarder quoi? Tu vas toujours mourir un jour. Tu veux retarder simplement l'apparence du vieillissement. Mais l'apparence que tu caches là, mais ton cœur lui vieillit. Tu veux quoi? Les gens disent, ah, il est mort, mais il était jeune, hein, le visage. Non, ça ne changera rien à la réalité de la mort. Et pour celui qui est enfant de Dieu, la mort n'est pas une fin en soi. La mort est une délivrance par rapport à ce monde. L'apôtre Paul dit, mais qu'est-ce qui m'est préférable? Pour moi, mourir m'est un gain. Je préfère mourir et être avec mon Seigneur que de rester à souffrir sur la terre. Et par la chirurgie esthétique, les gens deviennent des chefs. Bibliquement, vous allez trouver nulle part que la chirurgie esthétique est mauvaise, que c'est un péché. Mais je parle selon le raisonnement que notre corps a de l'importance pour Dieu. Et j'ai expliqué que ce qui a de l'importance pour Dieu ne doit pas être changé, ne doit pas être modifié. Tu deviens le chef avec ton argent parce que tu as les moyens de payer les chirurgiens. Et aujourd'hui, ça devient même moins cher. Il y en a qui vont se faire opérer au Maroc. Il y a beaucoup de docteurs marocains qui ont étudié ici, qui ont eu leur diplôme ici et qui se font des millions, et des Français voyagent jusque là-bas pour se faire diminuer la narine. D'autres vont se faire grossir les lèvres. Et on devient le propre chef et on modifie, on touche à ce que Dieu a créé. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Une personne qui va faire un accident et ça va modifier quelque chose dans son corps, ce n'est pas de ça que je parle, bien-aimé. Je parle tout simplement de ce qui nous pousse volontairement à changer ce que le Seigneur a fait. C'est cet acte-là que nous faisons volontairement qui représente un défi que nous faisons à Dieu. De dire, je suis capable maintenant de corriger là où Dieu s'est trompé. Je suis capable de corriger cela. Et beaucoup ont recours à la chirurgie esthétique, et même les chrétiens. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est que si nous considérons que la chirurgie esthétique n'est pas un péché, le problème, ce n'est pas forcément l'acte en lui-même. Aujourd'hui, si je tape contre le mur, les gens vont dire, elle a tapé contre le mur et s'est mis en colère. Le vrai problème, ce n'est pas que j'ai tapé contre le mur, parce que je peux recommencer demain. Donc même si tu me mets une camisole, tu me retiens, je me calme. Mais demain, je peux recommencer, donner encore un coup sur le mur. Le vrai problème se trouve dans mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur pour que je tape contre le mur? Donc le vrai problème, c'est dans le cœur qu'il faut régler. Donc aujourd'hui, dire que en faisant telle chirurgie, ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas la chirurgie en elle-même directement. C'est quelle est la motivation qu'il y a dans ton cœur pour faire ça? Quelle est la motivation qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu peux dire honnêtement, le Saint-Esprit m'a inspiré que je devais changer de poitrine? Le Saint-Esprit m'a inspiré que je devais rajouter des hanches. Qui a l'honnêteté de dire ça? Si nous voulons être honnêtes, bien-aimés, nous voyons bien que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Le problème se trouve dans notre cœur. Alors si le diable a réussi à nous insuffler certaines choses dans notre cœur, dans le monde, on dit qu'il vole un œuf, volera un bœuf. Ça commence par un petit changement. Demain, ça devient un grand changement, à tel point qu'on ne saura plus savoir est-ce que c'est lui ou est-ce que ce n'est pas lui. Nous tous ici, même si nous ne l'avons pas connu, nous avons vu dans les vidéos Michael Jackson, quand il était enfant, quand il était adolescent, mais est-ce qu'il n'était pas beau? Mais il était beau. Mais lorsque vous voyez le Michael Jackson d'avant sa mort et de ce qu'il était à l'origine, mais c'est totalement une autre personne. Et les gens vont dire, oui, mais lui, il a exagéré. Mais le sentiment qu'il a eu dès le commencement là, pour changer petit à petit. Mais c'est ce même sentiment que les gens ont juste pour se refaire le nez ou bien les paupières. Quand le Seigneur dit que celui qui hait son frère est un meurtrier, ça veut dire quoi? Toi, tu vas dire, non, l'autre, il a tué, c'est un meurtrier. Dieu dit que même toi qui as la haine tueuse, tu es un meurtrier. Ça veut dire que le sentiment qu'il y avait chez l'autre, qui a tué deux personnes, le sentiment qui l'a poussé à haïr pour tuer, mais celui que toi tu as, même si tu ne tues pas, Dieu considère que vous êtes dans la même catégorie. Parce qu'il a tué en commençant par le sentiment que toi tu dis, non, mais moi je n'ai pas tué. Donc ce qu'il avait dans son cœur, quand il a commencé à modifier une chose, jusqu'à vouloir tout modifier, c'est le même sentiment qui pousse les gens à la chirurgie esthétique. On devient notre propre chef et on touche à ce qui représente de la valeur pour Dieu. Et Dieu est en colère vis-à-vis de ça. Parce que ce sentiment-là fait de toi ton propre chef. Et tu commences par la chirurgie esthétique et tu finiras peut-être par tuer quelqu'un. Certains vont dire, non, mais là, il abuse. Quel est le rapport entre la chirurgie esthétique et tuer? Un jour, je disais une chose. Lorsque tu perds ta clé, la clé tombe dans un trou qui est noir, un trou profond qui est noir, il y a une grille dessus, tu n'as pas accès avec tes mains. Et tu ne vois pas exactement où est la clé. Il y a plein de choses, certainement d'autres personnes qui ont fait tomber des choses. Maintenant, stratégiquement, tu vas prendre un aimant. Tu mets l'aimant au fond du trou pour attirer ta clé. Bien-aimé, est-ce que tu penses qu'il n'y a que ta clé qui viendra? Il n'y a pas que ta clé. Ta clé viendra, mais tous les objets autour qui sont attirés par le même aimant viendront aussi. Donc dans le péché, il n'y a pas une question de logique de se dire que puisque chirurgie esthétique, ça n'a rien à voir avec meurtre, non, je ne vais jamais tuer. Mais c'est simplement pour dire que le péché appelle le péché. Le péché va attirer tout ce qu'il y a de la même nature. Donc commencez toi-même, t'amènera dans une rébellion un jour qui fera du mal aux autres. Le péché attirera toujours ce qui est de la même nature. La chirurgie esthétique, pourquoi? On va tous mourir un jour. Et même si on ne meurt pas demain, tu veux plaire à qui? À ton employeur? Tu veux plaire au monde? Tu veux plaire à la société? L'apôtre Paul a dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Il faut choisir à qui on veut plaire. On ne peut pas vouloir plaire au monde et vouloir plaire à Dieu en même temps. Il faut choisir un camp. Et la chirurgie esthétique est un problème aujourd'hui qui emmène les gens à devenir leur propre chef et à décider sur leur propre vie. On doit renoncer à ça. Lévitique chapitre 19. Lévitique 19, au verset 28. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre des Lévitiques, il y a toutes sortes de recommandations que Dieu va donner à son peuple, pour lesquelles ils doivent respecter, qu'ils doivent marcher, afin qu'il y ait une marque physique dans Israël. C'est-à-dire que leur manière de vivre, en obéissant à ce que Dieu aurait dit, fasse de tout simplement des gens à part. Il a dit, la terre sur laquelle je vous envoie, les gens font certaines pratiques, mais vous, vous ne ferez pas comme eux. Je suis saint, vous serez saint aussi. Autrement dit, parce que je suis à part, vous serez aussi à part. Ne vivez pas comme eux, ne mangez pas comme eux. Et l'une des recommandations qu'il va donner dans Lévitique, 19, au verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Et là, je vais parler de la question des tatouages. Dieu est contre ça. Vous n'imprimerez pas d'image sur vous. Aujourd'hui, le tatouage, comme c'était aussi à l'époque, permettait aux gens de s'identifier. Il y a des tribus aujourd'hui, en Amazonie ou bien au fin fond de l'Afrique, où en fonction du tatouage, on peut définir il est de quelle tribu. Donc ça permet de s'identifier et de faire la différence entre tel et tel peuple. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme doit s'identifier à Dieu et non pas à un peuple, non pas à une mode, non pas à une société. Et l'origine du tatouage est le fait pour s'identifier à autre chose que Dieu lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Les hommes ont dit, nous allons nous construire une tour, nous allons nous faire un nom. Une tour qui monte jusqu'au ciel. Se faire un nom, c'est-à-dire nous allons nous identifier par rapport à nous-mêmes. Mais Dieu savait qu'en réalité, il cherchait à le défier. Il dit, voilà les hommes ce qu'ils projettent de faire. Je vais les confondre. Ils veulent faire les choses pour s'identifier entre eux. Mais moi, dans toute cette affaire, c'est moi qui les ai créés. Alors je vais les confondre. Et le tatouage fait partie des choses qu'on retrouvait autrefois. Et Dieu a dit, vous ne ferez pas comme ces gens-là. Vous allez vous identifier à moi. Et on voit aujourd'hui des personnes où on ne retrouve même plus la couleur de leur peau. C'est peut-être par la paume des mains qu'on arrive à discerner est-ce que c'est un blanc ou un noir. Il y a certains qui ont recouvert tout leur corps. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ah, mais lui, il a abusé, il a été très loin. Moi, j'ai fait que sur la main, j'ai fait qu'un peu. Mais elle aussi avait commencé par un peu. Ne tentons pas le Seigneur. La Bible nous dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. C'est-à-dire que celui qui croit que ce qui arrive aux autres, c'est eux. Moi, je sais que je suis assez fort pour tenir. Le Seigneur dit, en pensant comme ça, tu es près de la chute. Dieu ne veut pas qu'on se tatoue la peau. Là, il y a un verset quand même clair. Donc, je parle vraiment avec assurance là. Personne ne peut contester. C'est écrit. Parce que le corps a une importance pour Dieu. Ne vous faites point d'incision pour les morts. On voit des peuples aujourd'hui qui vivent encore ça, qui font encore ça. Des incisions sur le visage, tout le côté du visage. En fonction des fois, en fonction de ce qu'ils représentent dans le village. Il a plus d'incisions ou moins d'incisions. Donc ça devient comme des galons. Mais tout ça dénature les choses selon Dieu. Toutes ces choses-là dénaturent. Et le Seigneur ne veut pas que l'on soit dans ces choses-là. Un autre point. Jérémie 13. Jérémie chapitre 13. Verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous le faire, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je crois qu'on se comprend déjà. Alors, le Seigneur est en train de faire des reproches à son peuple pour la énième fois. Lorsque on lit le livre de Jérémie, on voit la colère de Dieu à travers son peuple qui tantôt vient vers lui, tantôt va vers d'autres faux dieux. Et Jérémie n'a fait que pleurer, n'a fait que prier pour ce peuple-là qui était un peuple au cou raide. Et le Seigneur finit par dire à ce peuple, finalement, tu es comme ça. Donc c'est-à-dire, c'est ta nature. Donc, l'exemple que le Seigneur va donner est frappant. Il a dit, ta nature ne peut pas changer. De la même manière qu'un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Ça veut dire quoi? De la même manière qu'un léopard ne peut pas changer ses taches. Je l'ai créé comme ça. Donc Dieu ne peut pas imaginer qu'un Éthiopien cherche à changer sa peau. Et souvent dans les pays de l'Afrique de l'Est comme ça, les gens sont très sombres parce qu'il fait très chaud. Dieu dit, mais regarde l'Éthiopien tel qu'il est. Il ne peut pas changer sa peau. Puisque naturellement, je l'ai créé comme ça. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le corps de l'homme a une importance, bien-aimé. Dieu t'aime tel que tu es. Suivre les mœurs, vivre en fonction de la mode, en fonction de ce que le monde va dire que c'est ça qui est beau ou c'est pas ça qui est beau. Mais ce qui était beau hier est devenu vilain aujourd'hui. Ce qui était vilain autrefois est devenu beau aujourd'hui. Le monde ne fait que changer. Autrefois, les gens fallait être un peu ronde, fallait être un peu forte pour être considéré dans la haute société. Aujourd'hui, il faut être taille de guêpe et demain, ça va changer encore. Et là, les gens ne font que de faire du yo-yo. Mais tu te poses pas la question, mais ça vient de toutes ces modes finalement. Qui décide que la mode c'est ça aujourd'hui et demain c'est pas ça? La plupart de ceux qui font la mode, ils sont tous dans l'homosexualité. Et vous allez nous dire quoi? C'est Dieu qui les a inspirés? Est-ce que Dieu est dans la question du vêtement? Est-ce que Dieu est dans la question de l'apparence? Loin de là. Et il y a des personnes aujourd'hui qui modifient leur couleur de peau. Et la chose la plus dramatique, c'est qu'en réalité, il n'y a aucun produit qui a été créé pour ça. Ce ne sont que des produits dérivés. Des produits que l'on crée pour soigner une maladie de la peau. Les gens utilisent ça pour en faire autre chose. J'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, que le Seigneur n'aime pas le changement. Et on voit que dans le fonctionnement, dans la logique des humains, là où je peux tirer ma couverture, même si c'est dangereux pour ma santé, je suis le chef de mon corps, je fais ce que je veux. Et les gens cherchent à s'éclaircir la peau en mettant toutes sortes de produits qui, à la base, ne sont pas faits pour ça. Ce sont des dérivés. Il y a même des gens qui mélangent ces produits avec l'eau de Javel. Mais qui va me dire que l'eau de Javel a été créée pour la peau? L'eau de Javel, on désinfecte les toilettes là-bas. Toi, tu mets encore sur le visage. Qui va dire que l'eau de Javel a été créée pour la peau? Il y a des substances qu'on appelle l'hydroquinone. Ça a même été interdit en France. Donc en utilisant ça, tu es encore contre la loi. Puisque la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités. Les autorités ont décidé que ça ne doit plus être commercialisé. Combien de magasins sur Paris on a fermé parce qu'on a retrouvé des produits à base d'hydroquinone? Et en me renseignant sur cette affaire, je me rends compte que l'hydroquinone est une substance même à la base qu'on utilise dans la peinture, dans les produits chimiques. Ça montre clairement que ce n'est pas fait pour l'utilisation que les gens en font aujourd'hui, pour s'éclaircir la peau et modifier les choses selon Dieu. Mais Dieu dit, mais est-ce que l'Éthiopien peut changer sa peau? Est-ce que c'est un complexe d'être noir? Ah, moi, je suis noir. Je suis bien noir, il y en a plus que moi, mais je suis quand même noir. Je suis marié, j'ai des enfants. Être noir, ce n'est pas un obstacle dans la vie sociale. J'ai déjà été embauché, même si ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, mais on m'a embauché, même étant noir. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous ne m'aimez pas? Mais je suis noir. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas mort pour moi? Il est mort pour moi. Pourquoi changer la couleur de peau? Nous avons été créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Ne détruisons pas, bien-aimés, le corps que Dieu nous a donné, dans lequel il veut résider. Pourquoi s'attarder dans ces choses-là? Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est pas ça. Et des fois, quand vous voyez ça, tu vois, des fois, les mains restent noires, les pieds restent noirs, donc ça fait, multicolore, quoi. Donc, c'est deux couleurs dans le même corps, je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, des fois, c'est vilain, des fois, tu parles avec des gens, ils mettent seulement les mains dans les poches parce que, mais, il faut cacher, il y a une différence. Il y en a qui ne peuvent même plus faire comme ça, parce que quand tu fais comme ça, on voit tout de suite le contraste. Et ça ne fait pas joli. Ça veut tout dire. Mais la chose la plus bête, bien-aimé, c'est que même le monde dit que à outrance, ça donne des maladies de la peau, ça provoque le cancer de la peau. On voit quelque chose qui est bien aussi en fonction de sa conséquence. Si vous posez la question à un enfant, est-ce que fumer c'est bien? Il dira non, parce que les conséquences de la cigarette, on les voit clairement. Si tu lui dis, est-ce que manger des oranges c'est bon? Ah oui, c'est bon, parce qu'on le voit aussi scientifiquement dans le corps. Est-ce que prendre la drogue, c'est bien? C'est pas bien, parce que ça détruit. Tu vois le visage de quelqu'un qui est sain à une époque, et maintenant, quand il prend la drogue, tu vois la métamorphose. Mais c'est la même chose. Donc, si les médecins te disent que ça peut produire le cancer de la peau, donc tu vois bien que la conséquence même te montre qu'à l'origine, c'est pas bon. Surtout les sœurs, arrêtez avec ça. Vous ne glorifiez pas Dieu dans votre corps. Je dis surtout les sœurs, mais même les hommes, des grands champions aujourd'hui aussi. On ne glorifie pas Dieu avec ça. Notre corps est fait pour le Seigneur, pour servir Dieu, pour honorer Dieu. Et la chose la plus dramatique, c'est qu'aujourd'hui, même des pasteurs font ça. Même des pasteurs font ça. Donc, tu vas le visiter à la maison, tu ne comprends pas pourquoi il a bandé les mains avec des sachets aux pieds. Parce que les gens, quand ils font ça, il faut transpirer. Donc, pour transpirer, il y en a même des fois, ils mettent le kawa à la maison, ils mettent des pulls, tout ça. Mais une souffrance! une souffrance, ça c'est l'avant-goût de l'enfer, là où il y aura la chaleur forte. C'est une souffrance inutile. Vraiment inutile, bien-aimé. Vraiment inutile. Dieu aime notre corps tel qu'il est. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité. Parce que beaucoup qui font ça pour vouloir plaire, pour vouloir séduire, ils sont aussi célibataires et depuis dans le concubinage, on ne t'a toujours pas épousé avec tout ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et l'un des points sur lesquels je veux conclure, c'est le problème de l'homosexualité. L'homosexualité, c'est aussi dans le même cas de tout ce que j'ai cité. Mais ça, c'est un péché qui est très particulier. L'homosexualité, c'est vraiment défier Dieu en direct. L'homosexualité est vraiment la conséquence du défi de Dieu. Dans le passage de Romains 1 que nous avons lu, quand le Seigneur dit qu'ils sont donc inexcusables. Ils sont inexcusables. Je leur ai révélé ma gloire. Dans le livre de Lévitique, le Seigneur dit aussi à son peuple, tu n'iras pas vers un homme comme on va avec une femme, tu n'iras pas non plus vers les animaux. Donc depuis le Lévitique, Dieu en parle. Et dans le livre de Romains, il dit que la conséquence de cette rébellion-là, c'est que les hommes ont commencé à aller homme avec homme, femme avec femme, et ils ont dénaturé leur corps. Et ça, c'est une abomination devant Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Il leur a dit, multipliez-vous. Mais maintenant, si dès le commencement, ou peut-être après, on va dire, après 15 ans, qu'il y avait peut-être quelques hommes, quelques milliers sur la terre, si à cette époque-là, tous les hommes avaient décidé de devenir homosexuels, mais on ne serait même pas ici. On ne serait même pas ici. Donc on voit clairement que derrière l'homosexualité, il y a la volonté de détruire ce que Dieu a créé de plus beau. La capacité que Dieu donne à l'homme de pouvoir enfanter est quelque chose d'exceptionnel. Soutenir l'homosexualité, c'est dire que Dieu s'est trompé, que l'on peut vivre autrement. Mais dans ce cas, il fallait vous créer vous-même. Il fallait se créer soi-même. Alors il y a des chrétiens qui vont dire, oui, mais il faut comprendre. Tu sais, quand il était enfant, peut-être, il s'est passé des choses. Tu sais, il faut comprendre, peut-être qu'il a grandi dans un milieu où il n'y avait que ça. Mais le problème, c'est est-ce que Dieu lui comprend ça? Dieu ne comprend pas. Donc si Dieu ne comprend pas, comment moi je vais comprendre ça? On ne se sert pas nous-mêmes, nous ne prêchons pas nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, on prêche l'évangile. Donc si pour Dieu c'est un problème, ça doit aussi être un problème pour un véritable chrétien. L'homosexualité dénature, c'est vraiment défier Dieu et de dire, je fais ce que je veux avec mon corps et je suis libre. Et c'est un moyen par lequel l'homme défie tout simplement le Seigneur. Ce n'est pas dit que nous devons avoir la haine contre les homosexuels, loin de là. Mais le péché, lui, on doit le dénoncer. Et on doit prier pour que ces gens changent, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils réalisent que la vie est belle lorsqu'on vit dans les conditions que Dieu veut. C'est ça qui est important. Lorsqu'on vit dans les conditions que Dieu veut. Il y a certainement d'autres choses aujourd'hui ou peut-être demain que la science nous proposera pour faire de nous des chefs de notre propre corps. Mais retenons simplement l'idée principale. C'est que Dieu nous aime tel que nous sommes. Ne cherchons pas à modifier ça. Ne défions pas le Seigneur. Ne disons pas au Seigneur comme si Dieu s'était trompé, je vais faire ce que je veux, je vais gérer comme je veux, loin de là, bien-aimé, loin de là. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils se trouvent moches. Ils se trouvent moches, donc je préfère me suicider. Tu te trouves moche par rapport à qui? Le regard que tu as, il est par rapport à qui? Nous vivons pour Dieu. Notre vie appartient à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Si Dieu a fait que je sois comme ça, alors j'accepte tout simplement d'être comme ça pour la gloire de mon Dieu. Dans Romains 8, 28, il est écrit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Bien-aimé, je n'inclus pas le fait que Adam ait péché. Il y a eu des choses qui sont entrées dans le monde et qui dénaturent aussi les choses comme le Seigneur l'aurait voulu. Je parle par exemple d'un enfant qui va naître avec une malformation. On appelle ça d'ailleurs malformation. C'est qu'il y a quand même l'image de ce que doit être l'humain selon Dieu, la disposition dont les membres doivent être placés, ainsi de suite. Maintenant, il y a des gens qui peuvent être nés avec des malformations, que si on les opère pour ramener les choses plus ou moins à la normale, ce n'est pas ça que je dénonce. Ça, il n'y a pas la volonté de défier Dieu et de modifier quelque chose qui va tout bien. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Que chacun voit avec son Dieu. Je ne peux pas répondre à tout. Comme je l'ai dit, tout n'est pas régi dans les Écritures. Mais je crois que si nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre. Si nous nous humilions un court instant, nous pouvons savoir que telle chose, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ce que je fais, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alors plutôt que de dépenser notre argent à faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, mais profitons pour faire autre chose, servant le Seigneur avec notre argent. Ne nous servons pas nous-mêmes, ne faisons pas de nous notre propre Dieu, mais acceptons d'être comme le Seigneur veut que nous soyons. À Jésus-Christ le seul soit la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur de gloire. Tu es bon, Seigneur. Et nous ne pouvons, Seigneur Dieu de gloire, que nous humilier, Seigneur de gloire, devant ta parole qui est la vérité, Seigneur. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais nos faiblesses. Tu connais, Seigneur de gloire, notre tendance à vouloir copier le monde, Seigneur, à vouloir nous identifier au monde. Seigneur, nous venons nous humilier et te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur, te demander pardon. Avant de poursuivre la prière, je vais faire un court témoignage. Il y a une personne qui m'a appelé il y a environ 3 mois, qui m'a appelé, une personne que je connais par intermédiaire, on s'est vu peut-être 2 fois seulement. Et il m'appelle, il est dans une région de la France, il me dit, voilà mon frère, je t'appelle parce que j'ai un souci ici, je ne sais pas comment régler ça. Et je lui dis, quel est ton souci? Il me dit, je suis venu visiter un ami à moi, voilà, qui se dit aussi chrétien, mais qui n'est pas fermé, mais qui se dit chrétien, et qui a ouvert une boutique de cosmétiques. Et il se retrouve devant un problème à tel point qu'il a même peur d'aller dans son magasin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, pour éviter les vols, il a installé des caméras. Mais il se passe que lorsqu'il vérifie les caméras, la nuit, il voit la silhouette d'une femme qui se déplace du côté là où il y a les produits cosmétiques. J'ai souri, j'ai dit, je bénis Dieu pour ce témoignage-là. J'ai dit, mais dis-lui qu'il arrête de vendre toutes ces choses-là, qu'il ne glorifie pas Dieu. Ça attire l'esprit de séduction chez les femmes. Ça attire l'esprit de séduction, donc le fait de vouloir faire plus. J'ai dit, mais dis-lui qu'il ne vende plus ça, qu'il vende ce qui est sain. Dans tout, il y a des crèmes aussi qui entretiennent le corps. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait des substances qui vont éclaircir la peau. Donc Dieu lui montre qu'il n'est pas d'accord avec ça. Voilà, Dieu lui montre qu'il n'est pas d'accord avec ça. Voilà ce que le frère m'a dit. Et encore un autre témoignage. Il y a quelques années, c'est arrivé à une ou deux sœurs pour lesquelles on priait. Et il y avait eu un moment donné, dans le milieu chrétien, des débats sur ce qu'on appelle les rajouts, les mèches. Est-ce qu'on peut mettre les mèches? Est-ce qu'on ne doit pas mettre les mèches? C'est pas à moi de dire est-ce qu'on doit mettre ou on ne peut pas mettre. Maintenant, il y avait la question, oui, mais c'est des mèches naturelles. Les mèches naturelles, ce sont des mèches que les gens vendent, surtout en Inde, où les femmes ont des cheveux très longs. Et les gens aiment mettre les cheveux naturels parce que ça fait vrai. Mais seulement ces gens-là les vendent au temple, ils font des prières et des incantations dessus. Et après, ça part dans le commerce. Donc, lorsque tu prends ces mèches-là que tu mets sur ta tête, mais tu prends aussi tous les démons que l'autre avait. Il faut pas les cheveux, c'est une partie du corps. C'est une partie du corps. Pourquoi aujourd'hui, les gens qu'on opère pour mettre l'organe de quelqu'un d'autre, il est obligé de prendre des médicaments toute sa vie? Pourquoi? Parce que naturellement, il y a le rejet. L'organe de quelqu'un d'autre n'accepte pas de vivre en toi. Donc, tu es obligé de compléter avec des médicaments pour que l'organe soit toléré dans ton corps. Donc, ça montre qu'à l'origine, les choses ne sont pas naturelles. Alors, il y a une sœur qui vient nous offrir un témoignage qui mettait les mèches. Elle va peut-être sourire si elle entend ça, si elle se rappelle. Elle dit, ah, j'étais à la maison, je me suis fait coiffer. Et à un moment donné, elle a commencé à s'agiter. Et je crois qu'elle a prophétisé elle-même, si mes souvenirs sont bons. Et Dieu lui a dit, si tu veux aller loin avec moi, enlève ça sur ta tête. Il y a d'autres pour qui on a prié une fois. On commence à prier pour elle et les démons se manifestent. Et la personne commence à s'arracher les cheveux. Quand elle se calme, je dis, pourquoi tu arraches les cheveux? Elle dit, je voyais des démons qui étaient accrochés à mes cheveux. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire qui doit faire quoi. Je vous donne des témoignages que les gens ont vécu, qu'on a vécu en direct. Pour faire comprendre que l'esprit de séduction est une réalité. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir s'il n'y a pas le rouge à lèvres. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, ma sœur, je te dis donc qu'il y a un problème quelque part. Tu ne peux pas recevoir du monde chez toi si tu n'es pas maquillé. Sache qu'il y a un problème quelque part. Là, tu atteins un niveau qui est particulier. Maintenant, même si tu n'es pas encore à ce niveau-là, je témoigne tout simplement de ça, bien-aimé, pour que chacun prenne ses dispositions, que chacun prie devant le Seigneur. Le but, c'est que nous soyons à l'image de Dieu. C'est que nous soyons à l'image de Dieu. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous allons prier, et personnellement, individuellement, il y a des choses que nous connaissons déjà. Il y a des choses peut-être que nous ignorons, que nous avons fait par ignorance ou simplement par suivisme. Que nous puissions demander au Seigneur de révéler en nous ce qui ne glorifie pas son nom. Que Dieu puisse nous montrer ce qui ne glorifie pas son nom. Toutes ces choses qui emmènent la modification de ce qui a de la valeur pour lui, que le Seigneur nous révèle. Que ce soit par rapport au corps, que ce soit par rapport aux Écritures, que ce soit par rapport à la représentation même qu'on se fait de Dieu. Que le Seigneur nous mette tout ça à la lumière afin qu'on se repente. Seigneur Dieu, tu connais toutes choses et tu connais nos cœurs. Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi? La Bible dit que c'est toi qui sondes le cœur, c'est toi qui sondes le rein. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Même ce qui est caché au-dedans de nous, Seigneur, tu le connais. Seigneur, il y a des choses que nous savons. C'est vrai que nous avons fait pour suivre les autres. Que nous avons fait par influence. Que nous avons fait quelquefois par tradition, par culture, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour cela. Seigneur, mais regarde les sentiments au-dedans de nous qui nous emmènent à faire cela. Seigneur, amène toutes choses à la lumière afin que nous puissions renoncer à tout cela. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas vivre selon les hommes, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre selon la mode, selon la culture africaine, occidentale, asiatique, Seigneur. Nous voulons vivre selon la culture de la Bible. Seigneur, restaure-nous. Ouvre-nous les yeux, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous voyons les choses telles que toi tu les vois. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, Seigneur, sois béni. Nous allons prier aussi pour nous-mêmes et pour toutes les personnes qui ont du mal à s'accepter, qui se trouvent avec des défauts qui finalement leur enlèvent la vie, des défauts qui emmènent certains même à se suicider. Et il y a peut-être des choses que nous avons des défauts que nous avons du mal à supporter, qui emmènent quelquefois la jalousie par rapport à l'autre, qui nous emmènent à envier, à dire que l'autre est plus beau que moi, l'autre est plus belle que moi. Et finalement, ça nous coupe de la communion avec Dieu, parce que quelque part, en ayant cette attitude-là, c'est Dieu que nous sommes en train de juger. C'est comme si on disait que Dieu s'est trompé quelque part. Nous allons donc prier pour nous-mêmes afin que Dieu nous aide à nous accepter tel que lui il nous accepte, à nous voir beaux tel que lui nous voit beaux. Et nous allons prier aussi pour toutes les personnes qui souffrent de tout cela au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous ne voulons pas vivre avec des complexes parce que toi tu nous as aimés, Seigneur. Tu vois, Seigneur de gloire, bien de fois nous marchons en fonction du regard des autres, en fonction de que dira les autres, Seigneur. Nous voyons quelquefois des émissions, Seigneur Dieu de gloire. Dernièrement, une femme qui marchait dans la rue en mettant toujours la main sur son nez parce qu'elle a honte de son nez. Elle ne sort plus, elle reste enfermée chez elle, Seigneur. Elle est privée de liberté, Seigneur de gloire. Oh Dieu de gloire, nous ne voulons pas se voir arriver à ce point-là. Mais déjà, il y a des choses, Seigneur de gloire, dans nos vies, Seigneur, que quelquefois nous n'aimons pas. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur. Délivre-nous de ce sentiment-là, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur Dieu de gloire, de ce qui nous emmène, Seigneur de gloire, à ne pas nous aimer tels que nous sommes. Seigneur Dieu de gloire, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions nous voir tels que toi tu nous vois. Seigneur, nous ne voulons pas simplement prier pour nous, mais nous prions pour toutes les personnes qui en souffrent, Seigneur. Regarde le nombre de personnes qui se suicident par complexe physique, Seigneur. toutes les personnes qui se laissent vivre, qui se laissent mourir, Seigneur. Nous ne voulons pas arriver à ce niveau-là. Ô Dieu de gloire, délivre-nous, Seigneur, de tout mauvais sentiment. Et délivre, Seigneur de gloire, tous ceux qui souffrent de complexes, Seigneur. Quelquefois, peut-être, moqués à l'école, moqués même dans la maison, Seigneur Dieu de gloire. Que tous ces gens puissent te connaître, Seigneur, et connaître ta consolation. Dans le nom de Jésus. Que toutes ces personnes, Seigneur, puissent entendre, Seigneur, que toi, tu les aimes telles qu'elles sont. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Car nous voulons te servir, toi. Nous voulons te ressembler, toi seul, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta grâce, ô Dieu de gloire. Nous voulons que toi seul sois notre chef, Seigneur. Sois notre chef, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser conduire par le monde. Nous ne voulons pas que ce soit le monde, la politique, la vie sociale, Seigneur, qui dicte, Seigneur de gloire, notre façon de vivre, Seigneur. Nous ne voulons pas de cela. Mais nous voulons simplement être attachés à toi, Seigneur. Nous voulons être attachés à toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire, encore ce matin. Seigneur, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, Seigneur de gloire, tu ne veux pas nous juger. Mais tu veux encore, Seigneur de gloire, nous perfectionner, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons accepter ta parole, Seigneur Dieu de gloire, vraiment avec joie, avec amour, Seigneur. Et tu vois au-dedans de nous, Seigneur Dieu de gloire, ce qui peut quelquefois piquer, ce qui peut quelquefois faire mal, mais nous voulons nous humilier, Seigneur de gloire, et considérer, Seigneur, que c'est par amour que tu nous as parlé ce matin. C'est par amour que tu nous as parlé ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Il est écrit, Seigneur, que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes, Seigneur. C'est pourquoi nous ne voulons rien mépriser. Nous ne voulons rien négliger, Seigneur. Donne-nous la force de renoncer à tout ce que toi, tu regardes comme un péché, Seigneur. Donne-nous la force de renoncer, Seigneur Dieu de gloire, à l'influence du monde, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, opère une délivrance dans nos vies, Seigneur. Opère une délivrance dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Si pour certains d'entre nous, Seigneur Dieu de gloire, c'est plus fort que nous, Seigneur, opère une délivrance dans notre vie, ô Dieu. Parce que nous savons que ta parole est la vérité, Seigneur. Nous savons que tu nous aimes, mais nous savons aussi que tu es juste, Seigneur. Nous savons aussi que tu jugeras un jour, Seigneur Dieu de gloire. Or, ta volonté, Seigneur de gloire, ce n'est que personne ne périsse, Seigneur, mais que tous nous parvenions à la connaissance de la vérité. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. C'est toi, Seigneur de gloire, que nous avons choisi pour notre roi, pour notre Seigneur, et nous nous humilions devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Seigneur Dieu de gloire, et je proclame, Seigneur de gloire, que tu es mon Dieu, tu es mon roi. Seigneur, sois mon chef. Règne sur ma vie, Seigneur de gloire. Règne sur ma vie, Seigneur de gloire. Règne dans nos vies, ô Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia.